Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Alba Ventura.
Soyez le bienvenu sur RTL. Bruno Retailleau, est-ce qu'il faut reconfiner le pays de manière stricte et courte dans la durée ?
Moi, je comprends que le président de la République ait des hésitations, parce qu'on voit bien que le consentement, l'acceptation d'un éventuel reconfinement, elle est plus du tout évidente. Mmh. Plus du tout, évidente. Peut-être faudra-t-il reconfiner. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que le confinement, oui, mais pour moi, c'est deux conditions. Il faut d'abord qu'il soit humain, qu'il n'oublie pas cette exigence d'humanité. Pas question de laisser dans les hôpitaux mourir les gens seuls. Pas question d'enfermer dans leur solitude nos anciens dans les EHPAD, d'autant plus que beaucoup vont avoir reçu la première injection de vaccin. Et la deuxième condition, non à l'absurdistan.
C'est-à-dire ?
Il faut que ce soit un confinement, si j'ose dire, sur mesure, et qu'il tienne compte des leçons des derniers déconfinements et reconfinements. Par exemple, l'Institut Pasteur, il y a une étude qui a été publiée juste avant Noël, le 17 décembre. Cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que, en réalité, les commerces ne sont pas les foyers de contamination. Donc, si on doit reconfiner, soyons intelligents, soyons humains.
Pour revenir à ce que vous disiez, qu'est-ce qui prime aujourd'hui ? C'est le sanitaire, c'est l'économique ou c'est la vie des gens ? Est-ce qu'il faut préserver l'économie ou est-ce qu'il faut craindre des violences comme on le voit par exemple aux Pays-Bas, au Liban ?
C'est une vue de l'esprit, je crois, de séparer la vie économique et sociale et le sanitaire. Les derniers confinements nous ont appris que 1 million de Français avaient basculé dans la pauvreté. Ça, c'est de la souffrance. Ces confinements nous ont appris qu'il y avait une consommation de psychotropes, des suicides, des violences conjugales. 40% de plus pour le premier confinement. J'ai entendu dire un chiffre, je ne l'ai pas, si j'ose dire, documenté, 60% pour le reste en matière de violences conjugales. Donc, ça fait des morts aussi. Donc, vous voyez bien que, et on l'a vu d'ailleurs, les pays qui s'en tirent le mieux en Asie. Ce sont des pays qui s'en tirent le mieux économiquement, mais aussi d'un point de vue sanitaire, qui ont eu le moins de morts. Donc,
mais ils confinent assez
pilotage.
Strictement dès qu'il y a une flambée épidémique. Non,
ce que je veux dire, c'est que, et c'est là que j'interroge, je pense
ils
qu'un confinement...
Ils sont très disciplinés par ailleurs.
Exactement. La culture collective compte, vous avez raison. Ce que je veux dire quand même, c'est que, vous savez, dans ces pays, le taux de mortalité par million n'a jamais été supérieur. J'excepte la Chine parce qu'on ne connaît pas les vrais chiffres. Mais à 20 morts par million d'habitants. Et nous, c'est 20, 30, 40 fois plus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et un confinement, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ces pays asiatiques, ils nous disent quelque chose dans leur succès. C'est qu'on peut vaincre une épidémie sans vaccin, sans traitement. Ils n'avaient pas plus de vaccins que nous, pas plus de traitement que
nous. Non, mais
nous
ne sommes pas des Asiatiques.
Non, attendez. Ils ont simplement, nous sommes des êtres humains, comme eux. Ils sont des grandes démocraties. Nous sommes aussi des démocraties. Mais eux, ils ont compris qu'il y avait deux pilotages possibles. Nous, on a choisi le pilotage par rapport au lit de réanimation. Et on pilote comme ça. Et malheureusement, on n'a pas ajouté d'ailleurs de lit de réanimation. On en a toujours autour de 5000. Et eux, ils ont une autre stratégie. Ils ont cassé les reins de l'épidémie. Comment ? En dépistant massivement. Alors nous, maintenant, au bout de 8 mois, on y arrive. Mmh. Ensuite, en traçant, et nous, on n'y arrive toujours pas. Il faut tracer de façon rétrospective pour trouver les super contaminateurs qui contaminent 80-90%. Et il faut aussi isoler. Et on n'isole pas. Le confinement, c'est quoi ? C'est isoler tout le monde.
Alors,
isoler les cas positifs, c'est isoler uniquement ceux qui peuvent propager. Il aurait fallu être plus ferme, y compris avec des amendes, comme on fait en Grande-Bretagne.
Vous avez interrogé de votre côté des médecins, vous parlez avec des élus. Vous allez être consulté par le Premier ministre Jean Castex, c'est ça que vous allez lui dire ?
Bien sûr, c'est ce que je vais lui dire. Évidemment, ce que je vais lui dire, c'est pourquoi est-ce que on n'a pas de lit de réanimation supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on s'est mal tracé ? Pourquoi est-ce que dans mon département, je vois dans le centre de vaccination qui est tout près de chez moi, eh bien pendant 4 jours, on a déprogrammé les vaccinations qui étaient programmées pour les personnes âgées parce qu'il n'y avait plus assez de doses. Donc pourquoi est-ce qu'en France, on séquence pour traquer les variants du virus ? Il faut les traquer. Eh bien, on a 30 fois moins de moyens de séquençage que dans un petit pays comme le Danemark. Pourquoi tout ça ?
Bruno Retailleau, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit de Xavier Bertrand qui l'a dit dans ce studio, il faut travailler ensemble, gouvernement et élu. Est-ce que vous tendez la main au gouvernement ?
Mais je ne fais que ça. Je suis président du principal groupe d'opposition au Sénat. Que croyez-vous qu'on a fait ?
Non, mais vous,
on a
voté... avez dit que la campagne de vaccination était un fiasco. C'est une manière de tendre la main.
Mais parce qu'on a toujours donné les moyens. Et cette nuit, hier soir, on a voté en l'amendant. L'état d'urgence. On a voté les moyens au gouvernement pour aider nos entreprises. On les a tous votés en réalité. Donc on tend la main. Maintenant, moi j'ai un devoir d'unité sans doute, mais j'ai aussi un devoir de vérité par rapport aux Français. Quand le gouvernement fait bien, je le reconnais. Quand le gouvernement se trompe, je dois le dire pour le bien des Français, pour le bien de la France. C'est mon rôle. Et je vais vous dire, je ne pense pas à moi, je pense d'abord aux Français et à ce qui est bon pour eux.
Bruno Retailleau, c'est quoi être de droite aujourd'hui ?
C'est aimer la France.
Concrètement, enfin, j'aimerais bien des mesures.
C'est être patriote, c'est quoi être de droite ?
Aimer la France, je crois que tout le monde peut le dire.
Être de droite, c'est par exemple être pour la restauration de l'autorité. Voilà. L'autorité de l'État, c'est important. Moi, j'ai connu Notre-Dame-des-Landes et on a donné l'ultra-violence à payer et ceux qui étaient dans la légalité ont été les perdants. Il faut rétablir l'ordre en France. Je suis pour la liberté. Je pense qu'en France, on asphyxie les Français.
Mais parce que le président Macron ne veut pas rétablir l'ordre, à votre avis, ou d'autres potentiels candidats ne veulent pas moins d'insécurité, repousser l'islamisme radical.
Mais il aura fallu regarder pour l'islamisme. C'est un danger que je dénonce depuis des années. Il aura fallu attendre la dernière année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors que, souvenez-vous, les attentats 2015, vous vous rendez compte, il aura fallu attendre la dernière année pour commencer à avoir un texte qui sera un texte très très faible. Donc je pense que oui, il aura un mauvais résultat sur le plan de la sécurité. Il aura aussi un mauvais résultat sur le plan des dépenses. Notre problème en France, on dit la dette, très bien, c'est un problème. Mais il y a un problème plus important, c'est qu'on est champion du monde de la dépense publique. Malgré tout, on est champion du monde, mais on a des résultats médiocres. On a des infirmières qui sont sous-payées. On a des enseignants qui sont sous-payés. Vous regardez les résultats de l'école, la science, c'est important.
Donc
les
vous vaccins, applaudissez dès demain ceux qui, dans votre parti, appellent de leur vœu le revenu universel ou une augmentation des salaires nets de 5%.
Non, j'ai appelé ça de la poudre de perlimpinpin. Je pense que nous, on doit être le parti et la droite de la valorisation du travail. Le drame français, je vais vous dire, c'est que le travail ne paie pas. Vous avez le même coût du travail. Par exemple, c'est normal, on veut un modèle social exigeant. Par rapport à l'Allemagne, on a le même coût du travail, pratiquement. Mais ce qui reste dans la poche des salariés, c'est pas la même. C'est une injustice énorme parce que on retire de la fiche de paye et de la fiche d'impôt des Français énormément de charges pour nourrir un État bureaucratique qui ne nous protège plus. Et on en a eu la démonstration pendant toute cette pandémie. Voilà. Et donc, je crois que être de droite, c'est l'ordre, c'est la liberté.
Ça finance aussi notre système de santé que tout le monde loue.
Mais tout le monde loue. Tout le monde loue. Nous étions, il y a 10 ans, les premiers producteurs de médicaments en Europe. Nous sommes 4e. Nous étions, il y a 20 ans, au même niveau de vie que l'Allemagne. Il y a désormais 5000 euros. La réalité, c'est que la France est en train de dégringoler. Le bilan de M. Macron... c'est cette dégringolade. Donc, il faut que je... Voilà, la démocratie, c'est que l'opposition s'exprime aussi. C'est important. On ne peut pas toujours dire que tout va bien quand beaucoup de choses vont mal. Et les Français le savent, et les Français le sentent.
Où en êtes-vous de votre candidature à la présidentielle ?
Écoutez, moi, je porte des convictions. Je veux me battre. Et j'ai engagé un combat aussi pour qu'il y ait à droite, puisqu'il n'y a pas de candidat naturel pour le moment... un choix démocratique.
Alors, il n'y a pas de candidat naturel, mais il y a des candidats qui se dégagent. Si on regarde les sondages, c'est bien qu'à 15 mois de la présidentielle, il faut être hyper prudent. Mais Xavier Bertrand est autour de 16%, Valérie Pécresse est autour de 14%. Si l'un des deux se dégage après les régionales de juin, vous pourriez soutenir l'un des deux ?
Mais un candidat
et abandonner éventuellement vos ambitions ?
Je l'ai toujours dit, un candidat naturel, c'est un candidat qui, à travers plusieurs sondages, nous assurerait d'être au second tour. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Moi, j'ai un objectif, en tout cas, c'est de ne pas tomber dans ce face-à-face qui serait un bégaiement de l'histoire du deuxième tour, du second tour de 2017, où on verrait M. Macron et Mme Le Pen. Vous savez que 80% des Français n'en veulent pas. Moi, je pense que il y a une autre voie possible. Et vous savez, jamais la France, c'est mesuré dans tous les sondages, jamais la France n'a été autant à droite. Moi, je veux faire des propositions pour que le travail paie plus, pour qu'on puisse rétablir l'ordre. J'ai des propositions à faire aussi contre le désordre migratoire.
Et j'ai vu que ces propositions, vous allez les faire sur votre application smartphone 2022.
2022, hein,
au moins,
c'est nouveau.
C'est clair.
Je pense qu'une communauté... faut aller vers les gens, là où les gens se trouvent. 80% des Français ont un smartphone. Et je pense que les partis politiques sont faits faibles parce qu'ils ne correspondent plus à un engagement civique moderne. Ils sont importants, mais je pense que la communauté numérique, le fait que les gens puissent participer, c'est fondamental, et notamment pour les jeunes.
Vous êtes ancien président de la région des Pays de la Loire, et finalement les chantiers de l'Atlantique vont rester sous pavillon français. Le gouvernement n'a pas voulu vendre à l'italien Fincantieri. Il a eu raison ou pas ?
Non, le gouvernement a voulu vendre. Attendez, j'étais président de région, ça fait 3 ans que je me suis... C'est moi qui... Attendez, je me suis opposé, 4 ans, hein, voilà. Je me suis opposé à la vente par Fincantieri qui avait des accords avec les Chinois qui auraient capté nos technologies en Chine. Voilà. Et à l'époque, j'avais en face de moi M. Macron, M. Le Maire qui trouvaient très bien qu'on puisse vendre... à Fincantieri, avec ses accords chinois.
Donc, Bruno Retailleau, on l'a vu avec Carrefour et le Canadien Couche-Tard, maintenant avec l'Italien Fincantieri. Est-ce que cela peut compromettre nos acquisitions? C'est-à-dire, non, on ne vous vend pas, mais nous, en revanche, on va continuer d'acheter chez vous. Est-ce ça peut compromettre nos acquisitions françaises?
Moi, je suis pour la souveraineté, mais je ne suis pas pour les coups de com'. Ce que je veux dire sur la sécurité alimentaire, que vous savez qu'il y a un CETA. Le CETA, voilà, c'est amener de la viande qui est faite dans des fermes industrielles canadiennes chez nous, alors que nous, on a la meilleure viande au monde. Ben moi, je suis contre le CETA. Les députés En Marche ont voté. Depuis 18 mois, le gouvernement refuse d'amener le CETA au Sénat parce qu'on votera contre. C'est ça aussi, c'est essayer d'être cohérent, la politique. Et j'ai des propositions à faire sur les médicaments, sur notamment la souveraineté.
Mais on en reparlera.
Bien sûr.
Je voulais vous dire merci parce que vous avez peu dormi.
Oui.
Parce que vous avez regardé le Vendée Globe.
Ah, exactement.
Et la victoire de Yannick Bestaven au Sable d'Olonne.
C'est extraordinaire. C'est pas Louis Bonin qui est à côté de moi dans ce studio.
Vous auriez préféré être là-bas qu'ici, j'imagine.
Bah oui, non, mais Yannick, je vais vous dire, je suis très heureux pour 2 raisons. D'abord, Yannick s'est dérouté pour aller sauver Kevin Escoffier et que le vainqueur soit aussi celui qui s'est dérouté. Il s'est dérouté parce que la direction de course le lui avait demandé. Attention, hein, bon, c'est pas les autres l'auraient fait tout autant, mais les gens de mer, ce sont des grands champions, des athlètes qui courent pour eux, bien sûr, pour gagner, mais qui ont toujours cette solidarité des gens de mer. C'est une belle tradition, et le Vendée Globe a écrit des pages humaines. C'est une aventure exceptionnelle parmi les éléments déchaînés, les océans les plus dangereux au monde, et ça grandit l'homme, et ça, franchement, ou la femme, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette édition, et c'est très bien, et ça, c'est rassurant. Et ils nous ont déconfinés. Ça a été le plus grand déconfinement pour les Français, et je trouve que vous avez raison d'en parler, et j'ajoute enfin que Yannick Bestaven est représentant aussi d'un groupe industriel de l'Ouest, et donc c'est très bien, Maître Coq et LDC. C'est super.
Merci pour la pub, Bruno Retailleau.
Et l'ensemble de l'entretien de Bruno Retailleau et d'Alba Ventura est à retrouver sur le site RTL.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.